Philippe avait un comportement différent le dimanche matin qu'il ne l'avait le reste de la semaine. Comme si l'évangile n'était une bonne nouvelle que pour une matinée seulement. Et nous, sommes-nous parfois un peu comme Philippe et Élise ? Peut-être à différents niveaux ? Est-ce que notre comportement est différent le dimanche matin de celui que nous avons auprès de nos proches pendant la semaine, avec notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre employeur, nos collègues, nos voisins ? Comment Jésus nous appelle-t-il à vivre nos relations de tous les jours ? Ce matin, on va continuer la lecture de l'Épître aux Colossiens, un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, verset 18, jusqu'au chapitre 4, verset 6. Et alors qu'on fait la lecture, j'aimerais vous demander une chose en particulier. J'aimerais vous demander d'être patient. Parce qu'il y a peut-être certains mots dans le texte qui peuvent nous choquer à première vue. Et je vous encourage donc d'être patient. Et j'espère qu'avec une explication du texte dans son contexte, on puisse mieux comprendre et ainsi pouvoir l'appliquer à nos vies. Pour bien comprendre justement le contexte de ce passage, dimanche dernier, on a vu dans le début du chapitre 3 que l'évangile, le fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, cela nous donne une nouvelle identité pour vivre une vie nouvelle. Je vous rappelle un des versets, le verset 12 du chapitre 3, où Paul disait « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » En résumé, puisque vous êtes bien aimés de Dieu, revêtez-vous de son amour pour pouvoir l'exprimer autour de vous. Jésus nous a sauvés, pardonnés, aimés et nous invite à le suivre pour que son amour change notre vie du fond du cœur vers l'extérieur. Et aujourd'hui, dans la suite du chapitre 3, on va voir que cette nouvelle identité nous invite à vivre, une nouvelle manière de vivre plutôt, dans nos relations quotidiennes. Alors lisons ensemble ce passage. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y aura point de favoritisme. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vivre l'évangile dans nos relations quotidiennes, dans notre famille, au travail et dans notre témoignage. Le texte commence ici par des relations entre femme et mari. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Soumise. Je vais boire un verre d'eau. Soumettre. Voilà un des mots piégés, n'est-ce pas ? Récemment, avec Sophie, on était à un mariage chrétien. Et pendant le repas, on mangeait avec des invités. On a parlé un peu de la foi parce qu'ils ont vu qu'on était chrétiens. Ils nous ont posé des questions sur la cérémonie. Et à un moment donné, peut-être lorsque la relation de confiance était un peu établie, un des invités se tourne vers nous et presque en chuchotant nous dit « Est-ce que je peux vous poser une question un peu polémique ?» On dit « Bah oui, vas-y, il n'y a pas de question taboue. » Il dit « Vous pensez quoi de la place de la femme ?» Parce que vous voyez, pendant la cérémonie, le texte parallèle dans Éphésiens chapitre 5 avait été cité, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. » Et ils étaient très polis, très sympas d'ailleurs, mais aussi profondément choqués. Ils n'essayaient pas trop le montrer. Ils étaient choqués, tellement choqués par ce mot « soumettre » qu'ils n'avaient même pas entendu la suite du passage qui invite les maris à aimer leurs femmes. Et entre nous, choqués, je crois que cela peut se comprendre. Car aujourd'hui, le mot « soumission » est fortement connoté négativement. Vous êtes d'accord ? Quand beaucoup de personnes entendent ce mot « soumise », ils imaginent malheureusement des maris qui abusent de leur autorité, qui vivent comme des rois, des pachas à la maison. Ils imaginent une femme privée de ses droits, comme un objet, une bonne à tout faire. Alors l'apôtre Paul, quand il écrit ces lignes, était-il macho ? Pire, la Bible enseignerait-elle que les femmes auraient moins de valeur que les hommes et que leur mari aurait une autorité absolue sur elles ? Non, pas du tout. Et c'est pour cela que je vous ai demandé de la patience. On va regarder dans ce texte certains éléments qui nous permettent de mieux comprendre la signification de ce mot « soumettre » et ensuite du mot « aimer » dans son contexte. Et vous savez, il faut faire attention parfois de ne pas prendre un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte, pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Regardons plutôt donc ce qu'elle dit vraiment. « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes. » Paul s'adresse ici aux femmes, on a compris, et aux hommes. Et peut-être que vous serez surpris de le savoir, mais à l'époque, à Colosse, c'est ça qui était choquant. Ce n'était pas le mot « soumettre » qui peut nous choquer aujourd'hui. C'était le mot « mari ». Aimez vos femmes. Vous savez, dans une société très patriarcale, comme à Colosse à l'époque, le pater familias, le père de famille, avait l'autorité absolue, autocratique même, sur sa famille, au niveau social, juridique, moral. Et cela pouvait bien sûr déboucher parfois sur des abus d'autorité. Le fait que la femme ici, et plus tard dans le texte, les enfants, les serviteurs, ils soient nommés. C'était contre-culturel à l'époque d'avoir une résonance de la part du mari, du père et du maître. On reconnaît ici donc, dans ce texte, que la femme a la même valeur à part entière que l'homme et que dans l'Église, l'homme et la femme sont égaux. Pour reprendre Galates chapitre 3, verset 28, dans les mots de l'apôtre Paul aussi lui-même, ils font écho au verset 13 du chapitre 3, juste un peu avant notre texte. Voici ce que Paul dit dans Galates 3. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. Premièrement, les femmes sont donc égales aux hommes, elles ont la même manière, en aucun cas elles ne sont inférieures aux hommes. Bon, déjà, ça nous aide déjà à mieux comprendre le contexte dans lequel Paul invite les femmes à se soumettre à leur mari. Deuxièmement, on voit dans ce petit verset et dans son contexte que la soumission est un acte volontaire de la volonté et non un acte forcé. Et cela change tout. Quand Paul dit « femme, que chacune soit soumise à son mari », c'est une exhortation qui invite les femmes à le faire par leur propre volonté, comme il convient dans le Seigneur. Se soumettre, ça veut littéralement dire se mettre sous, se placer sous le leadership de son mari, on va l'expliquer un peu après, et c'est un acte volontaire et non forcé. Ensuite, troisièmement, donc la femme est égale, la femme se soumet par un acte volontaire et non contraint. Troisièmement, le texte parle d'une femme qui choisit volontairement de se soumettre à son mari. Cela ne veut pas dire que les femmes en général doivent se soumettre aux hommes en général. Que chacune soit soumise à son mari. Soyons clairs. Cela veut dire qu'un homme, à part qu'il ait une situation bien sûr de leadership particulière dans l'Église ou ailleurs, En dehors de cela, un homme n'a pas de leadership particulier sur l'épouse d'un autre, juste parce qu'il est un homme. Et de plus, ici, il s'agit bien d'un mariage où les deux conjoints sont chrétiens. D'autres textes parlent d'ailleurs des encouragements pour les personnes qui sont les seuls chrétiens de leur couple. Les femmes sont donc égales aux hommes, c'est un acte volontaire envers son propre mari. Et quatrièmement, dans le contexte ici d'une autorité qui n'est pas abusive, mais une autorité qui est aimante. Et c'est important de le dire haut et fort. Parce que malheureusement, en France, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, tous les trois jours, une femme décède, tous les trois jours en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Encore plus, subissent des violences physiques, sexuelles, verbales ou psychologiques, et n'osent pas en parler. L'endroit où certaines femmes sont le plus en danger est malheureusement leur foyer, leur couple, là où justement elles devraient être en sécurité et s'épanouir. Et cela est intolérable. Et donc il est important de préciser que la Bible place toujours en premier le secours aux victimes et dénonce les abus, sous quelque forme qu'elles soient. Ici, le mot « soumise » se comprend dans le contexte d'une autorité qui n'est pas abusive, mais justement aimante et bienveillante. Et j'aimerais vous montrer cela dans ce texte. Au verset 18, déjà, on le voit, Paul termine « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur ». La femme a choisi ici, la femme chrétienne, en premier lieu de se placer sous l'autorité du Seigneur Jésus pour sa propre vie. Elle n'est donc pas appelée à accepter des choses de son mari qui seraient contraires à la volonté de Dieu, et en particulier les violences que je viens de nommer. Le verset est aussi suivi d'une exhortation aux maris à aimer leur femme. Et le fait que le mari est exhorté lui aussi montre bien qu'il est lui aussi sous l'autorité première du Seigneur Jésus. Il veut donc aussi vivre une vie comme il convient dans le Seigneur. D'ailleurs, les deux autres fois où le mot « amour » est utilisé dans ce chapitre 3, Paul parle au verset 12 de l'amour de Dieu pour les chrétiens et l'exhortation à se revêtir de cet amour dans leur relation avec les autres et donc aussi revêtir l'amour dans les relations conjugales. C'est ce qu'on a vu dans Colossiens 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus saints et bien-aimés, revêtez-vous de ces sentiments et revêtez-vous par-dessus tout de l'amour. » Ce n'est donc pas du tout un contexte d'abus ici, même l'inverse. On parle d'amour, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de pardon et de paix relationnelle. La femme est donc égale à l'homme, elle se soumet de manière volontaire, se place sous le leadership spirituel de son mari. En quelque sorte, c'est la copilote à côté du pilote. La femme se met sous le leadership de son mari. Et le mari utilise ce leadership pour le bien du couple et servir sa femme. Vous comprenez? J'aime bien l'image des sports, parce que j'aime beaucoup le sport. Mais vous savez, sur le terrain, on a parfois un capitaine. Le capitaine, il est un joueur comme les autres. Et pourtant, il a une responsabilité particulière. Il est celui qui encourage les autres, qui fédère, qui va donner une parole à propos, qui est un exemple, qui sert. Mais bien sûr, le coach sur le côté est celui qui a véritablement l'autorité absolue. Je crois qu'il est important de se souvenir que ici, l'homme et la femme sont tous deux et choisissent de se placer sous l'autorité du Seigneur. Égaux avec des rôles différents. La femme est la partenaire de l'homme, sa vis-à-vis, son aide à ses côtés, son encouragement, son soutien, sa joie, la chair de sa chair, les os de ses os, la prunelle de ses yeux, son unique, sa femme. Passons maintenant au mari. Mari, que chacun aime sa femme. Déjà, c'est pas toutes les femmes aussi. Que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Exhorter les maris à l'amour, c'est dur pour les mâles de Colosse à l'époque. Et par amour ici, il ne s'agit pas forcément d'amour romantique, d'acheter des fleurs, même si cela fait toujours plaisir, bien sûr. Par amour ici, il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Un amour qui se donne. Un amour sacrificiel. On l'a entendu dans l'évangile de Jean, chapitre 13, qui a été lu ce matin, à l'exemple de Jésus lui-même. Dans Éphésiens 5, Paul dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. C'est un amour qui est sincère et doux. Il ne s'aigrit pas contre elle. C'est un amour qui se place au service de sa femme, du couple, du foyer. Et s'il ne s'aigrit pas, c'est donc à l'image de Jésus un amour qui ne revendique pas son leadership. Jésus-Christ s'est abaissé, n'est-ce pas ? Le Créateur devenant une créature, devenant un petit bébé, pour vivre les mêmes souffrances que nous et un jour nous servir au point le plus ultime qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Jésus n'a pas revendiqué son leadership en venant sur cette terre. Il l'a démontré par son service. Parce qu'un leader qui aime, c'est un leader qui sert. Un mari qui aime, c'est un mari qui sert. On peut même aller jusqu'à dire que parfois l'homme va se soumettre aux besoins de son épouse ou de sa famille par amour pour elle. Il est prêt à donner sa vie. Il ne se sent pas détrôné lorsqu'il fait le ménage à la maison, s'il fait à manger, si sa femme gagne plus que lui au travail financièrement. Il ne se sent pas moins leader si régulièrement il fait les courses et les tâches ménagères. Ça, je vous laisse libre de vous organiser entre vous. En tout cas, le texte ici ne parle pas de cela. Parce que le mari chrétien n'est pas un leader sur un trône ou sur un canapé, influencé par une culture machiste qui malheureusement a parfois été encouragée dans les églises sous couvert d'un certain légalisme chrétien, qui oublierait trop vite l'exemple de Jésus-Christ lui-même, notre maître, qui a démontré son amour en nous servant. C'est un amour aussi qui vient de Dieu. Et cela montre que c'est un amour ici qui veut exercer un leadership spirituel dans la famille. On l'a lu plusieurs fois, Colossiens 3, 12, « Puisqu'il vous a aimé, revêtez-vous de ces sentiments, de cet amour. » En puisant dans l'amour du Christ, le mari peut aimer sa femme et conduire le couple dans une vie spirituelle riche et épanouie. Et c'est particulièrement à cela que le mari est appelé. Avoir une impulsion spirituelle dans son couple et sa famille. Waouh ! Là, c'est une responsabilité. Vous avez parfois, soit au travail, dans les associations, même parfois dans les églises, on veut tous avoir la position de leadership et de responsabilité. Jusqu'au jour où on comprend que cette position-là est plus une position de service qu'une position de privilège. Et ici, c'est bel et bien le cas. Marie, aimez vos femmes. C'est une responsabilité. À encourager à la prière, à encourager à la lecture de la Bible dans son foyer, à inclure Jésus dans les décisions à prendre, à créer une culture où chacun peut se sentir libre de partager ce qu'il ressent et ce qu'il vit, à parler de sa foi, à parler de ses luttes, de ses chagrins, de ses espoirs, de ses joies, à placer Jésus au centre du foyer. Voilà la responsabilité de l'homme. Revenons un peu à Philippe et Élise. Philippe, malheureusement, n'avait pas vraiment compris cela, malgré ses volumes de commentaires théologiques. Avec sa femme, à la maison, quand la porte était fermée, il s'aigrissait régulièrement, il se mettait en colère, il ne faisait pas preuve d'amour ou de service, il ne plaçait pas Dieu au centre de sa vie et de ses relations. Et nous, comment vivons-nous nos relations conjugales à la lumière de cet évangile et de l'amour de Dieu ? Pour les célibataires, cela vous donne peut-être des belles pistes à explorer pour voir les qualités que vous désirez rechercher, à la fois dans un futur conjoint, mais aussi le type de relation profonde que vous voulez développer. Je l'ai déjà dit, le texte ne nous dit pas qui doit sortir les poubelles ou faire à manger. Et j'espère que vous comprenez bien que la Bible n'est pas une suite de règles à suivre pour avoir une vie réussie ou un mariage réussi. La Bible nous invite à rechercher Dieu et le connaître, et à comprendre certains principes bibliques qu'on vient de voir, comme la soumission et l'amour, et voir comment les appliquer par son aide, dans notre contexte, à notre vie. Une petite application, je me permets quand même. Peut-être il pourrait être judicieux de prévoir un temps de dialogue en couple à ce sujet. Ne regardez pas les pasteurs pour qu'ils organisent ça pour vous, d'accord ? Marie, avec l'aide de votre femme, prenez un temps pour en parler. Je crois qu'un bon leader spirituel qui est fondé dans son identité en Christ n'a pas peur de poser des questions et est prêt à poser des questions. Demandez à votre femme, comment je peux t'aimer davantage? Comment est-ce que je peux être un meilleur leader spirituel? Comment vas-tu spirituellement? Ou même tout simplement commencer par comment ça va? Comment je peux prier pour toi? Comment est-ce que je peux t'aider? Comment je peux m'assurer que tu t'épanouisses spirituellement? Tu puisses te reposer, voir une amie, lire la Bible, grandir dans notre relation ensemble avec Dieu. Pour qu'on grandisse ensemble en amour pour Dieu, pour les autres et l'un pour l'autre. Et la femme aussi peut poser des questions. Comment vas-tu dans ta marche avec Jésus? Est-ce qu'il y a des comportements que je fais qui t'aigrissent? Comment puis-je t'aimer davantage? Comment puis-je t'aimer et t'aider à être un bon leader spirituel dans notre couple et notre famille? Ou même peut-être suggérer à votre mari cette semaine, et si l'on avait la discussion dont on a parlé dimanche matin pendant le message? Notre couple a besoin d'impulsions spirituelles pour qu'on fonde nos familles sur la vie avec Jésus. On va aller plus loin dans les autres relations, mais vous verrez que ce qu'on vient de dire ici est central et que beaucoup de choses vont s'appliquer de la même manière aux autres relations. Enfants et parents. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Eh, la même mutualité ici est valable pour les enfants. Et on exhorte les pères. Parce que les enfants sont des personnes à part entière. Même s'ils n'ont pas forcément tous le même degré de maturité, d'indépendance selon leur âge. Mais ils sont des personnes à part entière, précieuses aux yeux de Dieu. Écoutez bien, qui peuvent déjà avoir une vie spirituelle dès un jeune âge et connaître Jésus. Et quand c'est le cas, ils sont appelés à rechercher une vie qui est agréable au Seigneur. Paul ensuite s'adresse encore une fois au père ici, au pater familias de l'époque. Et c'est contre-culturel, hein, vous l'aurez bien compris, qui s'adresse à chaque fois à lui aussi. Il a l'autorité peut-être absolue dans la société de l'époque, mais selon la Bible, c'est une autorité différente. Il est appelé à prendre soin de sa famille. Un bon leader, serviteur, un peu comme le pasteur de la famille, à ne pas décourager, mais encourager ses enfants à marcher avec Dieu. On retrouve ça dans Éphésiens 5 aussi. Bien sûr, cette exhortation aujourd'hui, je crois, peut s'étendre d'une certaine mesure aux deux parents qui jouent ce rôle éducatif et aussi à un parent seul. Revenons à Philippe un instant et Élise. Ses enfants à Philippe étaient devenus adultes. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, ses relations avec ses enfants étaient tendues, étaient froides, étaient difficiles. Alors j'ai une question d'application. Sommes-nous parfois plus préoccupés par des choses terrestres que célestes dans nos relations familiales? Sommes-nous plus préoccupés pour la réussite scolaire des enfants, leur réussite universitaire lorsqu'ils seront plus grands, ou plus tard leur réussite conjugale, professionnel, familial, que par leur relation avec Jésus-Christ? Encourageons-nous les enfants à vouloir plaire au Seigneur et vivre une vie qui lui est agréable et leur montrer que Jésus-Christ est la plus belle chose qui soit au centre de nos vies? À vouloir vivre une vie agréable au Seigneur, ça ne veut pas dire de vivre une vie pour gagner l'amour de Dieu, parce qu'on l'a déjà lu, c'est puisque vous êtes aimés que l'on peut vivre une nouvelle vie pour lui. Comme un petit enfant, vous savez, un petit enfant qui ramène tout sincèrement un beau coloriage à ses parents. Il a un grand sourire, il ramène son coloriage, ou à son tonton, et, vous savez, il ne le fait pas pour gagner l'amour de ses parents. Il le fait parce qu'il sait qu'il est aimé, et parce qu'il sait que cela leur est agréable. Qu'on puisse enseigner aux enfants l'amour bienveillant de Dieu et sa grâce, pour qu'ils désirent eux-mêmes, du fond de leur cœur, vivre une vie qui leur soit agréable. Pas juste suivre une série de règles par peur d'être punis, mais qu'ils apprennent à aimer Jésus du fond de leur cœur. Et c'est un défi, mais vous pouvez puiser aussi dans l'amour et les forces du Christ pour rechercher à vivre cela et enraciner votre vie familiale en Jésus-Christ. dans la famille et aussi au travail. Parce qu'à l'époque, à Colosse, vous savez, il y avait beaucoup de serviteurs. On peut même utiliser le mot esclave. Ils faisaient partie de la maisonnée grecque de l'époque, donc dans une certaine mesure, ils vivaient littéralement sous le toit avec le couple, avec les enfants. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve, ces trois catégories-là, le couple, la famille et ensuite les serviteurs et les maîtres. Déjà, encore une fois, ici, il y a mutualité. Paul s'adresse aux serviteurs et aux maîtres. Pas courant d'exhorter les maîtres à l'époque. Et quand il s'adresse aux serviteurs, ce qui n'était pas courant ici, c'est qu'il ne s'adresse pas à eux juste pour leur faire des reproches, comme cela aurait été souvent le cas dans ce genre de table domestique à l'époque. Dans l'Église, souvenez-vous, les serviteurs avaient la place sans distinction ou favoritisme. Il n'y a plus ni serviteur, ni homme libre, plus de distinction, car on est un en Christ. Et ici, s'il ne dénonce pas directement l'esclavage, vous pourrez me dire, à un niveau sociétal en tout cas, il ne le dénonce pas dans ce passage précisément, il montre déjà que dans l'Église, l'esclavage à l'époque, il y a plus de 2000 ans, n'avait déjà plus sa place. Et d'ailleurs, plus tard dans l'histoire, ce sont des chrétiens comme William Wilberforce et le pasteur John Newton en Angleterre qui ont été des leaders formidables de l'abolition de l'esclavage en Europe. En quelque sorte, Paul, dans ce passage, lorsqu'il invite les maîtres à accorder à leurs serviteurs ce qui est juste et équitable parce qu'ils ont un maître dans le ciel, avait déjà semé la graine qui allait faire imploser l'esclavagisme et permettre son abolition quelques siècles plus tard à un niveau sociétal. Même si encore aujourd'hui, il reste des progrès à faire. Donc ici, maîtres et serviteurs sont tous égaux. Les serviteurs sont aussi encouragés à vouloir plaire au maître. On le voit ici au verset 22, comme pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire au maître. Au verset 23, à servir de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et il leur dit ensuite, servez Christ, verset 24, le Seigneur. Et c'est le même mot ici dans le texte grec entre serviteur et maître. Donc lorsqu'il dit servez Christ le Seigneur, littéralement, c'est Christ le maître que vous servez. The maître, the Seigneur. C'est vraiment lui, votre maître, au-dessus des autres qui sont ici sur terre. Vous ne servez pas simplement votre maître terrestre, il dit ici selon la chair, ça veut dire ça, votre maître terrestre, mais vous servez votre maître qui est au ciel. Avec ce bon maître au ciel qui est Jésus, vous aurez part à un héritage, verset 24. Même si ce n'est pas le cas avec votre maître terrestre, sachez que vous avez un héritage qui vous attend lorsque vous servez Christ. Et ce qui se rapproche le plus aujourd'hui pour nous, bien sûr, de cet exemple, c'est le travail, qu'il soit payé ou bénévole. Même s'il faut garder en tête que la situation ici, les serviteurs n'étaient pas la même que nous, ils n'avaient pas les mêmes droits. Hein. Mais même s'ils n'avaient pas les mêmes droits que nous, aujourd'hui, les mêmes principes peuvent justement être appliqués à nos propres vies. Chercher à plaire au Seigneur, et non pas juste quand on nous regarde, quand on est au travail. Travailler de bon cœur pour le Seigneur, même quand on nous a refusé l'augmentation qu'on méritait. Se rappeler que le maître que l'on sert, c'est Jésus. Quand l'employeur est désagréable et décourageant, quand notre travail ne nous plaît pas et qu'on voudrait tellement faire autre chose de nos journées. Ensuite, verset 1, il s'adresse au maître. Vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Là, je pense que l'exhortation est simple à comprendre pour les maîtres à l'époque et pour nous aujourd'hui. En une seule phrase, il l'explique. Et si c'est votre cas, peut-être aussi, vous êtes en situation de responsabilité dans votre entreprise, dans une association, pourquoi pas dans un ministère de l'Église. Vous êtes sous l'autorité du Seigneur. Vous avez un maître au ciel à qui vous rendrez compte pour la manière dont vous exercez votre leadership. Mais écoutez bien, vous avez aussi un maître dans le ciel vers qui vous pouvez regarder pour voir son exemple de leadership serviteur et aussi recevoir son secours, recevoir son amour, sa sagesse pour exercer vos responsabilités de la bonne manière, pour accorder ce qui est juste et équitable. Et on est d'accord, ce n'est pas toujours simple, mais vous pouvez puiser en Christ les forces pour le faire au mieux. Pour notre Philippe, au travail, son comportement aussi était problématique. Il n'était jamais satisfait, vite en colère, parfois trop exigeant avec les autres. Il montrait un peu, pas assez de compassion. Il aurait peut-être même pu justifier cela théologiquement en disant que c'était par un désir d'excellence qui poussait les autres. Mais il loupait le cœur de l'Évangile. Alors nous, lundi, au travail, ou peu importe où vous êtes, employés, managers, stagiaires, chefs de rayon, ouvriers, bénévoles, professeurs, élèves, étudiants, nous sommes tous aimés de Dieu et c'est lui que nous servons, c'est Christ, le Maître, que nous servons. Et nous avons un héritage qui nous attend au ciel. Cela va donner du sens à notre travail, nous motiver à faire notre travail, comme pour le Seigneur, de manière intègre, juste, de tout notre cœur. Quand Paul dit d'ailleurs ça au verset 24, tout faire comme pour le Seigneur, écoutez bien, ce texte nous montre aussi que le travail séculier, c'est-à-dire le travail qui ne se passe pas dans une église, il compte autant aux yeux de Dieu que tout autre service. J'avais prévu une liste de professions, mais vous pouvez toutes les mettre dedans, ce serait un peu long de les lister. Toutes les activités qu'on peut avoir, d'ailleurs même si elles sont bénévoles ou autres et qu'elles ne sont pas dans une catégorie, le travail pour le Seigneur, c'est une activité qu'on fait pour les autres. À chaque fois que l'on sert, rappelons-nous que c'est Christ, le Seigneur, que l'on sert avant tout. Et cela peut changer complètement notre manière de vivre notre travail. On le fait pour lui plaire, parce qu'il nous aime. Comme ce petit enfant, on lui amène notre coloriage. Pas pour gagner son amour, mais parce qu'il nous aime et qu'on sait que cela lui est agréable. Ne tombons pas dans le même piège que les chrétiens de Colosse, ici. Le piège était de croire que la vraie spiritualité, c'était des moments de transe extraordinaires, à prier aux anges, à recevoir des visions, ils se détournaient même des écrits de la Bible pour le faire. Non, la vraie spiritualité, on l'a vu au chapitre d'avant, oui, elle se nourrit de la parole de Dieu, oui, elle se nourrit de la prière, oui, elle se nourrit d'une louange passionnée et enthousiaste par la musique, oui, elle se nourrit de la communion fraternelle qu'on vit ensemble le dimanche matin, le mardi ou mercredi dans les cellules de maison, etc. Mais elle impacte ensuite tous les autres aspects de notre vie. Tel le sachet Lipton Yellow qui s'infuse ensuite dans l'eau, cela va s'infuser dans toutes nos vies, toutes nos activités, l'amour et la grâce de Dieu. Paul termine ensuite, on va aller très vite sur ce dernier texte, dans notre témoignage. Dans quelques semaines, on aura une formation qui nous parlera plus du témoignage dans l'Église. On reprendra justement plus en détail ce texte. Mais regardons juste sa structure. Chapitre 4, verset 2, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Paul commence à conclure un peu sa lettre ici en nous encourageant de manière générale à prier. Persévérez, en d'autres mots, que la prière soit le soutien, la fondation de votre espérance, de votre persévérance. Que la prière soutienne cette vie nouvelle que vous voulez vivre pour lui, aussi dans vos relations, à vouloir vous revêtir de Christ, de son amour, pour l'exprimer autour de vous. Persévérer et veiller, c'est un peu des mots militaires, vous savez. Veiller, c'est d'être sur le qui-vive. En Bretagne, on dit d'être au taquet. Car on a besoin de Jésus, à chaque moment, pour pouvoir vivre une vie ainsi décrite, une vie qui lui soit agréable et qui lui plaise. Par nos forces, on ne peut pas y arriver. Et la prière est l'expression, justement, de notre besoin de Jésus. Ensuite, il encourage à intercéder, prier en même temps pour nous, ça veut dire prier pour les autres. Prier ici en particulier pour une porte ouverte pour le message de l'Évangile. Car souvent, le témoignage de l'Évangile, il commence par cela, par la prière. Et c'est ce qu'on fait régulièrement dans les cellules. On prie pour les missionnaires, pour les pasteurs et autres personnes, comme Paul le demande ici. Mais on peut aussi le prier pour chacun d'entre nous. Et le prier pour les personnes à qui on a à cœur de parler de notre foi librement. Seigneur, donne-moi une occasion de pouvoir parler de toi cette semaine. Le témoignage commence par la prière, ensuite aussi la conduite au verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Les personnes du dehors, c'est pas très joli non plus comme expression, non ? Ici, c'est simplement ceux qui ne connaissent pas encore Jésus personnellement, ceux qui ne sont pas de sa famille, qui est l'Église. C'est pas qu'on les ait mis dehors, loin de là. C'est plutôt qu'ils ne veulent pas vraiment rentrer, pas encore. Peut-être qu'ils ne voient pas encore la grâce et l'amour de notre Père Céleste qui les invite à venir et qu'il leur tend les bras. Et si c'est votre cas ce matin, Dieu vous attend les bras ouverts pour vous dire, mon enfant, je t'aime, je te pardonne, je veux te donner de vivre une vie nouvelle avec moi et pour moi. Paul appelle les chrétiens ici à se conduire avec sagesse dans les relations. Cela veut dire qu'on n'est pas à se couper du monde, à se couper et vivre dans une bulle chrétienne, loin des gens qui ne croient pas en Jésus, mais justement à vivre dans ce monde avec la sagesse qui vient d'en haut pour pouvoir refléter la vie nouvelle que Jésus nous donne de vivre. Paul encourage de racheter le temps, ça veut dire de mettre à profit les occasions qu'on a dans le quotidien, de pouvoir vivre notre foi et de pouvoir aussi en parler autour de nous quand l'occasion se présente. Le témoignage, c'est la prière, c'est la conduite et c'est aussi la parole. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quand nous saisissons l'opportunité de parler de Jésus, que notre parole soit donc empreinte de la grâce de Dieu, assaisonnée de sel, ça veut dire pleine de saveur. Encore une fois, puisqu'on est ses enfants bien-aimés, que cette nouvelle identité se reflète dans la manière dont on parle de Dieu, que son amour soit visible dans la manière dont on parle de lui et dans nos mots lorsque nous présentons ce message de l'Évangile, que Jésus-Christ est mort à la croix pour des pécheurs comme nous et ressuscité pour nous donner une vie nouvelle avec lui et l'espérance de l'éternité qui s'y attache. Que l'amour de Jésus soit visible même dans la manière dont on parle de lui et dont on pose des questions, dont on répond pardon, aux questions que l'on pose. Et si vous prenez ce verset à l'envers, si vous sachiez comment il faut répondre à chacun, ça veut donc dire que la vie du chrétien, changée par l'amour de Dieu, est une vie qui suscite l'interrogation autour de lui. Et on est ici invité à pouvoir tendre l'oreille pour écouter l'autre, ses questionnements, ses doutes, ses désaccords, pour savoir comment répondre à propos à chacun avec grâce et vérité. Parler de la vérité de l'Évangile et de nos convictions, mais le faire dans l'attitude du Christ lui-même qui s'est donné pour chacun. Alors, est-ce que vous voyez une différence entre votre comportement le dimanche matin et celui avec vos proches le reste de la semaine? Moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement. Est-ce que vous êtes un peu comme Philippe, parfois? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour Philippe et pour nous? Alors oui, je crois qu'il y a de l'espoir. Tout ce texte de Colossiens nous montre qu'il y a de l'espoir. Car l'évangile de Jésus qui est présenté est assez puissant pour nous transformer du fond de notre cœur, jusque dans nos actions, même celles qui parfois peuvent être compulsives, telles la colère ou telle l'irritation. Nous pouvons nous enraciner en Jésus-Christ pour pouvoir porter du fruit qui ne vient pas de nous-mêmes. Aimer pour pouvoir aimer. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous de considérer le message de la croix. Le message de la croix nous invite à venir confesser nos erreurs, notre manque d'amour, notre désir parfois de nous placer devant les autres, de les dominer, d'être reconnus comme supérieurs, notre ambition parfois malsaine de réussite à tout prix au travail, d'être le meilleur, notre dureté de cœur parfois lorsqu'on parle de Jésus aux autres avec jugement et condamnation, ou notre peur parfois qui nous empêche même de parler de lui. La croix nous invite à venir poser cela aux pieds du Sauveur, parce qu'à la croix, il a eu la victoire totale. Et son esprit aujourd'hui peut nous animer d'un amour envers les autres pour vivre cette vie nouvelle. Puisqu'on est aimé, puisons dans son amour pour le vivre dans nos relations, à la maison, au travail et dans notre témoignage. Je vous invite à prier maintenant. Et pendant ce temps, les musiciens vont venir pour nous conduire dans un chant. Ce chant d'ailleurs est inspiré le refrain de Grâce infinie écrit par John Newton, lui-même qui était un esclavagiste et qui ensuite a rencontré le Seigneur Jésus en entendant les chants d'esclaves lors d'une tempête dans un bateau, en voyant leur espérance lorsqu'ils servaient le maître et pas leur maître terrestre. Et alors qu'on chante ce chant, je vous encourage à réfléchir à votre position devant le Seigneur, à réfléchir à sa grâce infinie, que même nos peurs, nos échecs, nos péchés, il peut les prendre, il peut nous pardonner et nous donner une vie nouvelle. Parce que son amour est si grand qu'il nous accepte tels que nous sommes, mais il est aussi si puissant qu'il ne nous laisse pas inchangés. Prions ensemble et chantons. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci parce que tu nous aimes d'un amour qui s'est manifesté à la croix et tu désires qu'on puisse porter ce fruit dans nos relations quotidiennes. Merci encore de nous éblouir par ta grâce et de nous transformer là où nous ne pouvons pas le faire. On le prie dans ton nom, Seigneur. Amen.